Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière visite radiophonique de l'année 2022 avec Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Avec Caroline Entrecq du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Alors les filles, vous allez m'amener où aujourd'hui ?
Blind test !
Chum, chérie, pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient.
Alors là, vous me posez vraiment une colle, moi qui suis quand même quelqu'un d'âgé, qui ai peut-être connu cet artiste avant sa mort, mais je ne vois pas du tout.
Eh bien, c'est Mary Poppins, et nous allons parler d'une thématique particulière aujourd'hui, la thématique des
cheminées. Alors on va faire une visite un petit peu particulière, puisqu'on va parler d'une thématique très large. On ne va pas voir un site, mais parler des cheminées. En long, en large et en travers.
Et comme c'est la dernière de l'année, nous avons une petite surprise pour toi, Ludo.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Comme c'est Noël, on a proposé à tous les intervenants de toutes les visites radiophoniques de l'année 2022 et les futures en 2023 de venir et de parler des cheminées avec nous.
Et on excuse bien sûr Manik et Elsa qui avaient fait une visite de Saint-Saturnin et qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui et c'est bien dommage.
Voilà, donc on va faire une visite. On va faire une visite au coin du feu devant une cheminée pour parler des cheminées.
Et comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre tes baskets, Ludo.
Eh bien, c'est une bien belle surprise que vous m'avez fait, les filles, tous les chroniqueurs, chroniqueuses, animateurs, animatrices qui sont venus pendant cette année et qui vont venir aussi en janvier. On vous prépare une surprise pour l'émission radiophonique de janvier prochain. Avec Béné qui est là, on va entendre chacun tour de rôle. On a changé de matériel. Si le son change un peu, c'est normal. On va parler des cheminées. Et oui, période de Noël oblige, Nelly.
Évidemment, on pouvait pas passer à côté. Hein ?
Il y a de quoi dire pour des cheminées sur cette période de Noël ?
Il y a énormément à dire sur les cheminées.
Alors justement, on est au bord d'une cheminée, Nelly.
Tout à fait, on est au bord d'une cheminée, mais je commencerai par poser une question. Qu'est-ce qu'une cheminée ?
Qu'est-ce qu'une cheminée, chers auditeurs, auditrices ? C'est quelque chose qui sert à se réchauffer.
Tout à fait. Donc évidemment, on parle de cheminée et évidemment, on parle de foyer, puisque la cheminée, c'est le foyer et c'est donc lié à notre habitat. Donc pour lancer notre émission et parler des cheminées, on peut même remonter jusqu'à la préhistoire, jusqu'au néolithique, époque, période où les hommes vont se sédentariser et donc vont commencer à habiter dans un habitat un petit peu durable, voilà, solide, et donc vont
faire du feu.
Faire du feu. Mais vont faire du feu chez eux.
À la différence du paléolithique, où du coup on vivait de manière nomade, où on faisait le feu au milieu des habitations nomades. Et donc le foyer, la cheminée, c'est vraiment l'idée d'avoir une maison familiale et de rentrer le feu au sein de son habitation.
C'est pourquoi on a invité tous nos chroniqueurs. Comme ça, on est au coin du feu, c'est convivial, on est dans le foyer.
C'est une très bonne idée, Nelly.
Merci.
Qu'est-ce qui se rapproche plus de cette idée du feu dans les grottes ? Peut-être le Cantou auvergnat ou c'est
Non, du coup, Ludo, l'idée du Cantou, c'est vraiment l'idée d'être réunis ici tous ensemble devant ce beau feu de cheminée. Et ça, c'est vraiment un peu l'ADN du Cantou.
C'est des foyers ouverts quand même, comme on peut voir quand on fait, quand on est jeune, qu'on va dans des grottes faire du feu, faire la fête. C'est les foyers ouverts.
Oui, donc Ludo, tout à fait, ça te rappelle un peu les soirées chez ta grand-mère peut-être, sur la Margeride, sur l'Aubrac.
Quand tu écossais les petits pois devant le feu.
Absolument.
Donc le cantou, c'est vraiment cette énorme cheminée qu'on retrouve voilà en Margerie de sur l'Aubrac. C'est vraiment dans les maisons paysannes et c'était l'unique moyen de chauffage et d'éclairage des maisons. On s'y retrouvait le soir un peu comme maintenant devant le feu pour parler, faire les travaux, écosser les petits pois, mais également voilà parpoter, faire des veillées en famille ou avec les voisins. En général, au-dessus du cantou, il y a une énorme poutre, soit en bois, soit en pierre, avec une petite étagère sur toute la longueur où on vient voilà stocker les éléments pour les aliments pour les sécher. Et au milieu de l'âtre, on faisait la cuisine avec une potence un petit peu pivotante. Et de chaque côté, à l'intérieur de ce cantou, il y avait un banc avec un coffre qui servait pour stocker le sel au sec. Et du coup, souvent, c'est les plus âgés qui venaient s'asseoir sur ces cantous en bois et on pouvait comme ça discuter en famille. Donc c'est vraiment un lieu pour passer des veillées où on parlait pendant les longues périodes d'hiver. Le mot cantou, aujourd'hui, ça peut aussi signifier un lieu qui est un centre d'animation naturelle tiré d'occupation utile. Donc c'est un principe qui a été utilisé pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer ou de démence. Et donc on utilise pas mal les cantous aussi en maison de retraite, on les retrouve dans les EHPAD, pour justement retrouver ce lien social auprès de la cheminée, aider les personnes âgées à retrouver leur vie d'avant, en râpant des carottes, par exemple, tout ça au coin du feu. Donc aujourd'hui, le cantou garde quand même cette notion vraiment de convivialité et d'histoire autour du feu.
Ça existe encore, les cantous? On pousse à construire des cantous? On voit qu'à l'heure actuelle, en 2022, on explique que les cheminées ne chauffent pas vraiment, polluent beaucoup, on pousse les gens à avoir des poêles. Les cantous, c'est en voie de disparition ou pas?
Alors le cantou, c'est l'élément sur la façade qui sert de cheminée. C'est pas que le conduit, c'est tout cet élément qui constitue voilà la potence pour faire à manger, les petits bancs à côté, la voûte. Donc le cantou peut être tout à fait conservé. Après, c'est vrai que le cantou chauffe 80% de l'air extérieur et 20% de l'air intérieur. Donc c'est vrai que là où on est tout de suite, il y a un poêle qui par contre lui chauffe 80% de l'air intérieur, ce qui est beaucoup mieux d'un point de vue énergétique.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses habitations qui ont été rénovées, on a gardé ces cantous qui certains prennent quasiment toute la largeur d'une pièce où on va aménager un poêle à l'intérieur du cantou. Donc on va garder l'architecture du cantou, mais on va installer un poêle pour pouvoir chauffer plus facilement, mais aussi, comment on pourrait dire, moins polluant. Parce que une cheminée ouverte, c'est super, c'est très agréable pour l'ambiance, mais par contre, ça chauffe pas beaucoup et l'air qu'on respire est un peu chargé, quoi.
Voilà, un poêle dans un cantou, c'est ce qu'on retrouve ici. On dira pas où on est, c'est un lieu mystérieux. Par contre, c'est embêtant pour le Père Noël. Comment il passe dans ce poêle?
Alors, ben, tu sais que le Père Noël, il est magique. Tu le sais, ça.
Ah.
Donc, il se débrouille toujours.
Encore aujourd'hui, Ludo, on conçoit des maisons contemporaines avec cette notion de foyer central qui reste voilà vraiment un endroit au-delà de l'architecture qui a du sens pour le côté vie de famille, le foyer, etc.
Parce que la cheminée, c'est donc ce qu'on a à l'intérieur avec le foyer, c'est aussi un conduit qui va permettre d'extraire, un conduit d'extraction d'air chaud, de fumée ou alors d'autres choses. Et donc on va parler aujourd'hui avec nos différents chroniqueurs des cheminées intérieures avec le foyer, des cheminées extérieures qu'on va voir sur les toits et etc., etc.
Pour rebondir, du coup, la cheminée, ça vient du mot latin qui signifie caminus, fourneau. Et donc c'est vraiment ce qui englobe la totalité de la cheminée, c'est-à-dire, comme l'a dit Nelly, l'âtre, vraiment la partie où on fait le feu. On peut se servir de chenet ou de landier, pour rehausser un peu les bûches. On a le contre-cœur qui est le fond de la cheminée. On a les jambages sur le côté, le linteau au-dessus. Et puis bien sûr, le conduit qui va ensuite vers l'extérieur. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle un avaloir.
Voilà, et c'est sur le contre-cœur qu'on a souvent une plaque en fonte avec une décoration qui donne son caractère à la cheminée. Au-delà des jambages
et des armoiries qu'on peut trouver sur les linteaux.
Et on en a vu beaucoup pendant toute cette année, dans différents châteaux ou autres endroits. On a vu des très belles cheminées. On s'est jamais attardé dessus, donc c'est bien qu'on s'attarde aujourd'hui. Et nos invités vont nous présenter des cheminées qui sortent un peu de l'ordinaire. On va commencer avec Lucille qui est là. Lucille qui avait fait avec nous la visite radiophonique à Marvejols. On se rappelle, Marvejols, site industriel. D'ailleurs, on s'était dit qu'on en faisait plusieurs parce qu'il y avait beaucoup à dire et on n'avait pas eu le temps en une seule émission. Lucille, merci d'être là avec nous.
Ben merci beaucoup Ludo de m'avoir invité. Alors moi je vais nous emmener voyager un petit peu. On va pas du tout rester en Lozère, je vais nous emmener autre part, mais on verra qu'il y a quand même des liens avec le Cantou dont vient de parler Caroline. Moi je vais vous parler de la maison qui s'appelle Fallingwater, d'un architecte assez connu qui s'appelle Frank Lloyd Wright. Donc c'est une maison aux États-Unis, en Pennsylvanie, c'est à peu près au niveau de New York, mais dans les terres on va dire. Et cet architecte, en fait, a la particularité de faire ce qu'on appelle, enfin, ce qu'il a défini comme étant une architecture organique. Donc, organique, c'est pas forcément dans ses formes qui peuvent être arrondies ou quoi, mais c'est plutôt dans le rapport à la nature. Et donc là, pour cette maison, en fait, c'est un, comme beaucoup de maisons dans l'architecture, on va dire contemporaine, c'est un quelqu'un d'assez riche qui veut faire une maison secondaire sur un terrain qui lui appartient, donc voilà, où ils vont pique-niquer régulièrement. Et en fait, il y a une cascade sur ce terrain, une très grande cascade qui fait 9 mètres de haut. Et Wright propose, en fait, au lieu de faire une maison qui regarde la cascade, de faire une maison au-dessus de la cascade pour qu'elle vive, que la maison vive avec cette cascade. Et le point central, en fait, de cette architecture, de cette maison, c'est un grand pilier de pierre calcaire sur lequel est bâtie la maison, qui accueille une cheminée. Et en fait, toute la maison va se développer autour de ce gros mur, un gros pilier, et va se développer sur trois niveaux différents. C'est une maison immense qui fait à peu près 250 mètres carrés, donc voilà, on imagine quelque chose de très très grand. Cette cheminée, elle a la particularité en fait d'être sur le rocher où il venait pique-niquer, donc qui est vraiment proche de la rivière. Et les dalles affleurent en fait au niveau de la cheminée, il y a tout un petit salon qui est construit autour. Et on a après une grosse boule rouge, en fait, qui servait à faire chauffer du vin, apparemment, pour l'hiver, qui permet par une potence aussi de se placer dans l'âtre. Donc on retrouve un petit peu cette idée du Cantou qu'on a nous aussi ici. Et la pierre calcaire qui est utilisée pour ces piliers massifs, c'est une pierre aussi locale, donc qu'on a aussi chez nous, spécialement dans la vallée du Lot. Donc voilà, il y a quand même des petits rapports qu'on peut faire entre nos deux maisons.
C'est un chauffage d'appoint, du coup? C'est ce qui chauffe la maison, le bâtiment entier?
Je suis pas sûre qu'ils y venaient en plein hiver, très clairement, hein, parce que c'est des volumes qui sont très très grands. On a des très grandes pièces totalement ouvertes. On a juste des piliers donc en calcaire qui soutiennent de grands porte-à-faux en béton. Parce qu'en fait, c'était dans les années 30-40, on va dire, qu'elle était construite.
Ah oui, c'est pas récent quand même.
Non, c'est assez ancien. Et après, c'est vrai, ils y ont habité une dizaine d'années. Et finalement, c'est le fils qui a repris et depuis, c'est devenu un musée, en fait. Donc, il y a eu peu d'habitations dans cette maison, au final.
Et cette maison a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a peu de temps?
Absolument, c'était en 2008.
Caro, c'est un élément architectural important quand on construit, par exemple, nouvellement une maison, de se dire la cheminée, c'est un endroit important de la vie d'une maison, d'une famille, d'un foyer. Et donc, je peux jouer dessus, je peux proposer quelque chose qui soit un peu l'ordinaire ou pas?
Ah ben oui, totalement. La cheminée, c'est vraiment un endroit important. Alors, qui est un peu en concurrence, à vrai dire, avec la télévision. Hein, voilà. Mais voilà, on a quand même la cheminée qui est un endroit qui peut être très important pour les particuliers qu'on peut conseiller ou quand nous architectes on fait des projets de construction ou de rénovation.
Et ça se demande encore les cheminées ou on se dit on abandonne ça, on veut du chauffage parce que c'est compliqué de se chauffer à la cheminée, il faut faire des efforts, il faut avoir des bûches, il faut les couper, il faut les amener. On n'a pas une température ambiante constante dans une maison. Ça se demande encore en 2022?
Ah bah oui, parce que du coup maintenant on a des maisons qui sont quasiment passives, donc il faut pas grand chose pour les chauffer, et un petit poêle à bûche suffit amplement à chauffer une maison de 100-120 mètres carrés assez facilement. Et puis maintenant on peut utiliser donc soit des poêles à bois bûche, voilà, qui produisent de la chaleur, on peut avoir les poêles à granulés, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des fourneaux bouilleurs qui font chauffer un petit ballon d'eau qu'on répartit ensuite dans des radiateurs.
Outre cet architecte, Lucille, dont tu nous parlais, il y a d'autres architectes qui sont sortis un peu du rang grâce à leurs propositions au niveau du chauffage par cheminée?
Alors, c'est pas le chauffage par cheminée forcément qui va être le point.
Oui, ou l'apport d'une cheminée pour la vie d'un foyer.
Plutôt le côté, comme on disait au début, du foyer, en fait, de l'endroit où on se retrouve et où effectivement, soit la télé n'existait pas forcément à l'époque, ça c'était pour les moments les plus anciens, on va dire, même si c'était au début du 19e, du 20e siècle. Mais oui, ça c'est aussi quelque chose qui a pu, qui est souvent utilisé par les architectes, ouais.
On parlait des fois de Prouin, je crois qu'on l'a déjà présenté, qui est un architecte lausérien qui a fait beaucoup de bâtiments assez remarquables en Lozère, et beaucoup de ses maisons sont organisées autour d'un foyer. Notamment une magnifique maison vers Sainte-Croix, vallée française, où l'escalier qui monte à la mezzanine est organisé autour de la cheminée.
Merci beaucoup Lucille.
Eh ben merci Ludo, à la prochaine.
Allez, à la prochaine, on va boire un petit verre de vin chaud. En attendant, on va te laisser boire un coup. Nous, on travaille, on n'en boit pas beaucoup. On va donner le micro à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui nous présente une cheminée après, Nelly?
Je crois que c'est moi, non? C'est bon ou pas?
D'accord, bon, alors tu as posé ton verre de vin chaud.
Eh oui, c'est Nelly qui va nous parler de la cheminée, mais vue depuis le dehors.
C'est ça.
Ah, voilà, mais on était à l'intérieur, on était dans les grottes, dans les maisons. On va sortir un peu à l'extérieur. Pourquoi ? Il y a une particularité, Nelly ?
Oui, moi je vais vous parler très très rapidement des cheminées de Nojaret. Donc Nojaret, c'est un petit village de la commune de Badaroux. Badaroux, situé à 5 km de Mende. Donc Nojaret, c'est le village où est né Jean-Antoine Chaptal. Je ne sais pas si on en avait parlé pour nos visites sur Mende.
Je ne crois pas.
Et donc ce petit village a une particularité, a des cheminées vraiment caractéristiques qu'on retrouve peu ailleurs. Si vous allez vous balader là-bas, à l'extérieur, on voit des cheminées qui sont très hautes et qui sont à plusieurs étages. Donc en fait, on a le conduit de cheminée qui sort sur la toiture et après, on a un étagement qui va se faire progressivement et de manière conique. Non, pas conique, comment je peux dire ?
Pyramidale.
Pyramidale, voilà, pyramidale.
Pourquoi ?
Aussi. Eh bien, on suppose que c'est Nojaret, c'est un village qui est très ancien, dont on a des maisons qui a priori remontent au moins au Moyen Âge. Et une des hypothèses sur ces cheminées à étage, en fait, ce serait que chaque génération qui a habité dans les maisons a rajouté un étage. Et donc ça aurait permis. En tout cas, c'est ce qu'on suppose aux habitants de montrer en fait un peu leur importance, leur richesse du fait d'avoir une génération, enfin voilà, une famille, voilà, qui est là depuis X générations. Et donc, on a des cheminées qui ont 5-6 étages qu'on voit très bien sur les toitures.
Ça n'apportait rien au niveau de la combustion du feu ou autre. C'était vraiment du paraître.
Non, c'était juste pour faire celui qui serait le plus riche, quoi, ou le plus important, ou en tout cas une famille avec des racines importantes.
Mais c'est important de parler de l'extérieur, Nelly.
Mais tout à fait. D'autant que c'est quand même marqueur en fait, hein, du paysage, les cheminées, et notamment par exemple Mende. On a ces fameuses toitures en ardoise ou en loze avec ces cheminées. Quand on monte par exemple au clocher de la cathédrale, on peut vraiment admirer ça. Et les cheminées marquent une ville et marquent un paysage.
Merci Nelly de cette intervention concise.
Mais merci à toi, c'était avec plaisir.
On a passé une année formidable ensemble, mais tu vas garder le micro parce que on donne le micro à nos invités, mais vous restez bien sûr là avec Caro qui est les piliers de cette émission. On va passer à un autre invité qu'on a entendu sur l'émission du lac de Charpal et aussi de la station de ski. Parce que c'était Charpal et
station. Plateau du Roi.
Et Plateau du Roi, exactement. Okay. Vincent Lhermé, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On va aussi peut-être, parce qu'on va pas tout dévoiler, t'entendre dans la prochaine émission, on sait déjà qu'il y a Béné, mais peut-être que tu seras là.
Peut-être.
Quelle cheminée tu vas nous présenter, Vincent ?
Je vais vous parler de la cheminée du col de Montmirat.
Est-ce que tu sais, Ludo, où est le col de Montmirat ?
Je sais où est le col de Montmirat, mais alors je ne savais pas qu'il y avait une cheminée au col de Montmirat.
Alors, tu l'as jamais vue, cette cheminée, sur la route, en prenant la route ?
Je l'ai peut-être vue sans faire attention.
Quand on vient de Mende, tu la vois juste sur ta droite, une cheminée qui sort de nulle part dans un paysage tout à fait naturel.
Mais pourquoi une cheminée ici ?
Eh bien, figure-toi que beaucoup de gens se posent la même question et se demandent pourquoi une cheminée ici, dans ce paysage naturel, sans construction aux alentours. Donc rien à voir avec les cheminées domestiques dont nous avons parlé précédemment, enfin dont les différents chroniqueurs et chroniqueuses ont parlé avant moi. C'est une cheminée qui témoigne en fait des activités minières qu'il y avait dans le secteur, et notamment à la fin du 19e siècle. Donc autour du col de Montmirat, il faut savoir qu'il y avait des mines de plomb argentifère qui ont été exploitées dès le 15e siècle et sans doute bien avant, jusqu'au début du 20e siècle. Et donc cette cheminée était liée à la présence d'une laverie pour le minerai qui disposait de machines à vapeur pour fonctionner. Et donc il ne s'agit pas d'une cheminée d'extraction de fumée, mais bien d'une cheminée qui servait à évacuer la vapeur des différentes machines qui fonctionnaient dans le cadre de l'exploitation de l'usine.
Ça, on l'a vu à Marvejol, Caro, dans la visite avec Lucille.
Et oui, exactement. On a vu toutes ces cheminées d'usines qui sont vraiment un emblème de pas mal de villes industrielles. On retrouve cette idée de la cheminée industrielle dans toutes les affiches des années 68, par exemple. Voilà. Et donc, elles ont différentes formes. C'est vrai, principalement pour les chaudières de machines à vapeur, mais elles peuvent être carrées, rectangles, circulaires, polygonales, en maçonnerie de pierre, en briques, en tôle ou encore en béton armé. Mais c'est vrai que ces cheminées-là marquent fortement notre paysage.
Oui, et donc la cheminée de Montmirat dont on parle est une cheminée qui fait une dizaine de mètres de haut et qui est sur une base, un plan carré, et qui est construite en appareillage de schiste local avec même du grès sur l'échaînage d'angle qui lui donne son petit côté bicolore. Donc c'est le seul élément encore debout de cette ancienne exploitation minière, avec les ruines de la laverie qui sont situées à son pied mais que l'on voit pas parce qu'elles sont vraiment dans le petit ravin qui est au pied de la cheminée, et les anciens bureaux de l'exploitation que l'on voit encore en ruine à gauche de la route quand on monte dans le sens Mende-Florac, de l'autre côté de la nationale.
Tu parlais de plomb argentifère, Vincent, c'est quoi exactement ?
Oui, ben c'est un minéral justement qui combine, dans lequel on retrouve du plomb et de l'argent, d'où son nom de plomb argentifère, et qui est assez répandu autour du Mont Lozère, ce qui fait que le Mont Lozère a été un haut lieu de l'activité métallurgique et minière au Moyen-Âge. Du fait de son contexte géologique, justement, on est sur une zone de contact entre le granit, le schiste, et même le calcaire du Causse de Sauveterre. Ici à Montmirat, justement, la mine est vraiment située sur une faille à l'interface des deux roches, ce qui fait que c'est un contexte favorable aux minéralisations de ce fameux plomb argentifère.
Ça servait à construire quoi ou à produire quoi, ce plomb-là ?
Le plomb était utilisé dès l'Antiquité, oui, pour les tuyauteries. Par exemple, à Pompéi, toutes les tuyauteries étaient en plomb, et ça a perduré jusqu'au XIXe siècle. Ça a été arrêté pour cause des problèmes de saturnisme, hein, justement. Les canalisations en plomb, c'est pas terrible pour la santé. Et l'argent, ben, parce que c'est un métal précieux depuis l'Antiquité qui est recherché. Et justement, sur le Mont Lozère, cette périphérie du Mont Lozère, on a retrouvé des vestiges d'exploitation gauloise du... Alors, à cette époque, c'était plutôt l'argent qu'ils recherchaient. Au XIXe siècle, quand il y a eu l'exploitation industrielle de ces mines de Montmirat, c'était plutôt le plomb, parce que le filon est plus riche en plomb qu'en argent à cet endroit. Et simplement, oui, pour dire, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, que le Mont Lozère, c'était vraiment un haut lieu, on peut dire même en Europe, de la production de plomb argentifère à l'époque médiévale. Parce qu'il y a des recherches qui ont été faites, il y a plus de 100 sites d'ateliers de réduction de minerais qui ont été recensés sur tout le Mont Lozère, notamment autour de Barandon, qui est juste l'étang de Barandon, qui est juste au-dessus de cette mine de Montmirat sur le Mont Lozère. Et si vous vous baladez, vous pouvez trouver, apercevoir dans le paysage des endroits où il n'y a plus de végétation. Et en fait, c'est simplement qu'il y avait des fours qui étaient à cette époque ici pour extraire le minerai, où ils mettaient le minerai, du charbon de bois, ils faisaient brûler pour extraire le minerai. Ce qui a rejeté énormément de plomb dans l'environnement et qui empêche, plomb qui est toxique, et qui empêche la repousse de la végétation. Donc aujourd'hui, on voit et on trouve encore des scories quand on se balade vitrifiées qui est témoin de cette exploitation médiévale. Voilà.
Merci beaucoup Vincent, et merci de ta participation à l'émission au lac de Charpal, et peut-être à tes prochaines.
Mais avec grand plaisir.
gold present for my baby and for me. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice? You bought all those good old presents. I love you, baby. Rest of my life. Merry Christmas, girl. Merry, merry, merry Christmas, baby. Should it treat me nice?
On va passer avec quelqu'un qui a fait deux émissions chez nous cette année, qui en a fait d'autres les autres années. C'est Alexandre Monceau, guide conférencier auprès de l'Office de tourisme intercommunal Mandecœur de Lozère. Bonjour Alexandre.
Bonjour à tous, salut Ludo.
Salut, toujours un plaisir de t'avoir au micro. Donc cette année, ensemble, nous avons fait, si je ne me trompe pas, Change-Fège avec ce très beau dolmen et cette arbre remarquable dont nous avons donné les coordonnées GPS, tu te rappelles?
Oui, c'est un très beau chêne pubescent, d'ailleurs.
Et nous avons également fait ensemble, si je ne me trompe pas, dis-moi.
La montée au l'Ermitage.
Ah oui, que nous avons monté avec Nelly à pied.
Voilà. Et oui.
2h30 pour avoir une demi-heure d'émission. Mais parce que nous n'avons pas peur, nous faisons ça pour nos auditeurs, parce que nous aimons promouvoir
le sport,
la culture, le patrimoine
et le sport.
Et on donne de nous-mêmes. Hein,
c'est vrai que... c'est ça. Alors une cheminée, qu'est-ce que tu nous proposes comme cheminée?
Alors moi, j'ai tout bêtement réfléchi à ce que mes touristes me demandent souvent quand on fait les visites, notamment du clocher de la cathédrale. Alors Nelly a parlé des très belles cheminées à escalier qui est à Nogéret, on en a quelques-unes aussi sur Mende, mais souvent ce que les gens veulent comprendre, c'est ces grandes cheminées blanches qu'on a sur le Causse d'Auge, au-dessus de la ville, qui sont en fait les cheminées de l'usine de cogénération. Donc c'est vrai que ça surprend assez souvent, puisque on est au milieu de ce cœur historique de la ville de Mende, et là on a ce bâtiment qui surgit au-dessus de la ville, et qui donne un caractère industriel à la ville de Mende, ce qu'elle n'a pas spécialement. On parlait tout à l'heure de Marvejols, ville industrielle. Là, effectivement, on a des vestiges beaucoup plus importants, mais sûrement là, on est sur de l'industrie très récente, puisque l'usine, elle date de 2009-2010 pour sa mise en service.
Dans les temps actuels, c'est on voit où c'est compliqué d'avoir certaines sources énergétiques. C'est avoir une ville qui est notamment chauffée au bois, c'est vraiment exceptionnel. Des fois, j'ai l'impression de chez moi qu'on est à Springfield, qu'on est chez les Simpsons.
Ah oui, chez les Simpsons. Oui, c'est vrai que ça donne un peu cette idée-là. Effectivement, alors c'est un système qui permet de chauffer une partie des bâtiments publics, qui amène un petit peu d'électricité, mais c'est pas fournit pas toute la ville et ne rend pas la ville de Mende totalement indépendant et autonome énergétiquement, mais c'est toujours un complément. Donc on a ce chantier qui a démarré en 2006, qui a livré son premier kilowatt d'électricité en 2009, et puis le premier kilowatt d'eau chaude par contre en 2010. Et la production, elle se fait à partir de résidus de l'exploitation forestière. Donc on va utiliser essentiellement de la plaquette, donc c'est des petits morceaux de bois qu'on va venir broyer, c'est tout ce qu'on appelle les rémanents en exploitation forestière, donc c'est tout ce qui va être branches, parties de tronc qui ne sont pas exploitables sur la partie, on va dire, noble de l'activité forestière, qu'on va venir broyer, transformer en petits morceaux, en copeaux, qu'on va venir brûler, et puis après on va pouvoir ajouter les bois d'incendie. Alors malheureusement, c'est vrai que cet été, on a eu quelques incendies sur le département. Ben, on va les couper, les arbres qui ont brûlé, on va pouvoir les réutiliser sur cette usine de cogénération. Et puis aussi les petites sections, tous les bois finalement un peu trop petits en termes de diamètre ou de longueur, ce qu'on appelle les bois ronds. Donc chaque année, c'est quand même 80 000 tonnes de bois qui passent. Je me suis amusé à un petit calcul. Ça fait 12 semi-remorques par jour. Donc ça fait de la circulation.
C'est énorme. Mais est-ce que tu sais, Alex, d'où provient ce bois utilisé?
Alors, 80% de Lozère. Et après, on a de l'importation sur les départements limitrophes. Donc on a la chance d'avoir sur le département quand même un couvert forestier, une exploitation forestière importante, avec 50% par les sociétés forestières privées et 50% par les forêts ONF.
Et écologiquement, est-ce que c'est viable? Parce que c'était le principe de mettre ça en place, de se dire, voilà, on va chauffer au bois l'ensemble de la ville, du moins des bâtiments publics et de toutes les personnes qui veulent s'y raccorder. Est-ce que c'est viable ou pas?
Alors, ils ont vraiment beaucoup travaillé là depuis quelques années à l'amélioration du système. On a un taux d'efficience de 90%, c'est-à-dire que l'énergie, on a 90% qui est captée. Donc c'est vrai qu'on a assez peu de pertes. Alors c'est dû à la technique. Alors là, j'avoue, j'ai des notes, hein, parce que je suis pas un super spécialiste en cheminée et en chaudière à bois, hein, j'avoue. Donc on a donc le brûlage qui va donc générer la vapeur. Donc à l'origine, l'objectif, c'est de créer une vapeur. C'est cette vapeur qui va donc être créée, qui va passer dans une turbine, qui, en faisant tourner la turbine, va permettre la création d'électricité. Donc ça, c'est l'activité connexe. Si on parle d'un point de vue de la rentabilité économique, l'argent, il va être gagné justement sur cette petite production électrique. L'amortissement va se faire par la production d'eau chaude. Donc c'est l'objectif, c'est de faire de l'eau chaude. Et on va venir gagner un peu d'argent et rentabiliser l'usine par la revente sur le réseau de l'électricité. Donc cette turbine, elle alimente donc un générateur électrique, et on va soutirer par un échangeur l'eau à la vapeur pour pouvoir chauffer. Donc aujourd'hui, c'est 95 points de livraison, donc que ce soit des bâtiments publics mais aussi du logement privé. La cathédrale va être raccordée bientôt. Donc oui, on est encore en cours de développement, d'amélioration. Donc il y a 9 km de tuyaux aujourd'hui sur Mende pour ce système de chauffage. Et donc on a amélioré le rendement, comme je disais, en réinjectant les fumées. C'est-à-dire qu'une fois que on a fini un premier processus, c'est récupéré, c'est renvoyé. Et ces fumées, elles permettent de monter à température l'eau dès le début, mais aussi l'air qui va venir brûler le bois. Donc en fait, on a besoin de moins d'énergie pour brûler le bois puisqu'on utilise déjà un air très chaud. Donc on est vraiment sur quelque chose de très efficient, avec un captage là aussi des poussières, avec des systèmes assez complexes d'aimants et de dépoussiérage, ce qui fait qu'en termes de rejet, puisqu'on sait que le problème du chauffage au bois, c'est les particules fines, donc on a un captage très fort de ces particules, qui fait que l'usine aujourd'hui, elle est très en dessous des seuils autorisés de rejet dans l'atmosphère.
Voilà, si chaque maison bâtiment qui devait être qui sont chauffés avec ce système-là devait l'être par des cheminées individuelles sans poêle, ça serait fois 100 ou fois 1000 peut-être.
Oui, c'est possible. Et puis c'est toujours mieux que du fioul ou du gaz. C'est vrai qu'on est sur une ressource qui est renouvelable, avec une gestion forestière qui est, on va dire, raisonnée.
Pour rebondir sur ce que disait Alex, on a évoqué dans notre visite sur la forêt de la Loubière que la Lozère est un département au couvert forestier le plus important de la région Occitanie. On a vraiment un couvert forestier très étendu, et ça nous permet effectivement de répondre à cette demande qui est vraiment actuelle.
C'est l'avenir pour l'architecture des villes, Caro, d'avoir des chauffe-eau centraux qui chauffent un ensemble de bâtiments publics.
Ce qu'il faut se dire, c'est que pour arriver à l'autonomie d'une ville, ça peut passer par plusieurs mix énergétiques. Et c'est ce qui est de plus en plus proposé. Il y a des communes du Nord, notamment Lens-en-Groë, qui est une des villes les plus durables de France, qui travaille sur du photovoltaïque, sur des réseaux de chaleur, notamment au bois à plaquettes. Enfin voilà, l'intérêt, c'est de travailler sur ce mix énergétique, puisqu'on ne peut pas dépendre que d'une seule énergie. Ça devient un peu complexe, mais sur les villes qui arrivent à être des villes passives aujourd'hui, on n'a pas qu'une solution énergétique, mais finalement un petit mix.
Je voulais rebondir sur ce qu'on disait en introduction avec Alex sur ces cheminées à Mende. Je peux demander, Alex, si tu avais une idée dans le centre-ville de Mende du nombre de particuliers qui utilisent sa cheminée. Sa cheminée historique. Est-ce que tu as une idée ou pas du tout?
Alors, j'ai pas d'idée de chiffre. Après, quand on est donc dans le clocher, Il y en a pas mal qui fument, qui sont utilisés. Donc c'est encore un moyen qui vient compléter les autres dispositifs. C'est ce que disait Caroline. C'est, on est souvent sur du mix. Là, c'est pareil pour la cheminée. Si on veut chauffer tout un bâtiment comme on a dans les centres historiques, ça devient complexe et ça permet d'avoir un complément, un agrément. Ça peut être petite cheminée d'agrément aussi, hein, juste pour décorer. Oui, voilà, ou de décoration.
Peut-être pour compléter ce que disait Ludo, en fait, avant, il y avait une cheminée quasiment dans chaque pièce, puisque la cheminée chauffait une pièce, tandis que aujourd'hui, voilà, on fait une cheminée pour une maison, mais il y a beaucoup de cheminées qui sont sous-utilisées parce que c'était une cheminée par pièce.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que au Moyen Âge, notamment, et un petit peu après, on compte les habitants par nombre de feux dans les maisons. On sait que, par exemple, un feu au Moyen-Âge représente à peu près 8 personnes. Tu sais qu'il y a à peu près 8 personnes dans une maison.
C'est très bien que tu fasses cette remarque ou que Béné la fasse, parce que c'était la remarque de notre première visite radiophonique au château du Tournel.
Mais tout à fait.
Pour dénombrer le nombre d'habitations qu'il y avait autour du château.
Et ce qui est fou, Ludo, c'est que je me souviens très bien du chiffre.
Ah ben c'est fou. Donnons-le.
Eh bien, si je me trompe pas, 8 fois 8, ça fait combien? Ça fait 64?
Absolument.
Il y avait 64 habitants au Tournel.
Voilà.
Au Moyen-Âge.
Et justement, parlons du Tournel, on va passer au Château du Boy. On vient de parler du Tournel. Château du Boy, c'est une visite qu'on a fait précédemment. On a fait des murder parties, on a fait beaucoup de choses. C'est un ensemble architectural et historique très intéressant. Béné, tu veux nous parler du Château du Boy où il y a plusieurs cheminées?
Oui, très rapidement, parce que le Château du Boy, c'est quand même un élément majeur du patrimoine du territoire du Pays d'Arrêt d'Histoire. Et il y a plusieurs cheminées. Il y a notamment une très belle cheminée ancienne en pierre dans le grand salon.
Le salon d'or?
Et non, justement.
Ah non, le grand salon.
Et pardon. Je voulais aussi parler avec vous du salon doré, le fameux salon doré, qui n'a de doré que le nom, puisque aujourd'hui, il ne reste plus rien de doré.
Qui est à Brooklyn, en ce moment.
On ne sait pas où il est exactement, il ne nous reste juste des photos pour se souvenir de lui. Je voulais vous parler du château du Boy qui possède plusieurs cheminées, donc la cheminée du grand salon, mais surtout celle du salon doré, qui était très intéressante parce qu'elle avait c'était une cheminée d'apparat dans ce grand salon, voilà, avec des boiseries dorées, d'où son nom, et un programme décoratif très riche. Alors cette cheminée, on ne sait pas si elle existe toujours, elle n'est plus en place dans le château du Boy, il ne nous reste juste, enfin, on a juste des photos comme témoignage.
Et cette cheminée, Béné, à quoi elle ressemble? Est-ce que tu peux nous la décrire?
Oui, alors très rapidement, alors on a dit qu'il existait des photos de la cheminée originale, et en plus, depuis sa disparition, on a quand même construit une copie qui ressemble un petit peu à la cheminée originale. Alors on sait que le salon doré a été aménagé au XVIIe siècle, on pense vers le troisième quart du XVIIe siècle, et donc cette cheminée aurait été choisie d'après modèle. Alors le propriétaire de l'époque était Anne Guérin-Antoine Châteauneuf de Randon, donc on ne sait pas exactement si c'est lui qui a commandé la cheminée, ou si c'est sa veuve Anne de Marcillac, ou si c'est l'un de ses fils, mais on sait que le modèle qui a été choisi sur catalogue, ce serait une allégorie de la guerre et de la paix par Simon Vouet, voilà. Et ensuite, il y a voilà tout un projet décoratif de boiseries dorées qui représenterait les vertus.
Pour compléter ce que disait Béné, en fait, la cheminée, il faut l'imaginer en bois, avec un manteau en bois, et sur ce manteau, une représentation, un tableau avec ces fameuses allégories dont elle parlait, en fait, hein, dont parlait Bénédicte. Et du coup, ça nous fait une belle transition avec Nadia qui va nous parler d'une prochaine cheminée, mais peut-être Bénédicte, tu peux compléter si tu veux rajouter quelque chose sur l'autre cheminée.
Oui, je peux ajouter simplement que la cheminée, donc c'était un programme décoratif qui comprenait la cheminée, mais également un plafond peint, donc très richement décoré avec des boiseries dorées, et un programme iconographique qui s'appuyait sur des tableaux d'après Simon Vouet ou Nicolas Poussin.
Merci beaucoup Béné, on se retrouvera, je vais faire des petites cachotteries, on se retrouvera bientôt dans les visites radiophoniques.
Bientôt.
Très bientôt même. On va passer à notre dernier invité présente ici, qui va... D'ailleurs, il y a une transition toute trouvée, Nelly ?
Tout à fait, ça nous fait une très belle transition entre... On quitte une demeure bourgeoise dans le Val d'Aunès à la Nuéjolle avec Bénédicte, avec un programme iconographique inspiré de Simon Voué pour retrouver Nadia, le musée du Gévaudan et peut-être bien autre chose autour de Simon Voué.
Ben justement Nadia, alors quelle cheminée tu vas nous présenter et peut-être quel rapport avec ce Simon Voué?
Justement, donc merci beaucoup Bénédicte. Tapis rouge pour l'intervention suivante. Focus sur une cheminée qui, cette fois-ci, est orientée sur plutôt un programme décoratif. Donc elle a toujours cette fonction d'usage hein, qui est de chauffer, réchauffer. Donc on a un âtre qui est ouvert. Et là, on se situe dans un ancien hôtel particulier de la fin du XVIIe siècle, sur le même registre décoratif que ce qu'on vient d'évoquer pour ce qui se trouvait au château du Boy.
Suspense, tu veux nous parler de quel hôtel particulier ?
Alors, c'est un ancien hôtel particulier, l'hôtel particulier de la famille de Moret, famille qui vivait à la fin du XVIIe siècle. Et il s'agit d'une cheminée, donc, qui présente un motif décoratif et un répertoire décoratif autour de l'œuvre de Simon Voué. Je laisse durer le suspense pour vous dire comment on accède à cette cheminée et comment on peut la découvrir puisque vous pouvez désormais y accéder librement. C'est une cheminée qui est restée très longtemps confidentielle, qui a été redécouverte dans les années 1990 lorsqu'il y a eu des travaux. À l'époque, en fait, c'est une pièce qui avait été utilisée comme lieu d'habitation. Et donc, il y avait eu des travaux de sondage et des travaux afin de déterminer quelles étaient les peintures historiques qui pouvaient être révélées, être restaurées dans ces lieux. Et donc, une première phase d'étude années 90, 2010 aussi des phases de restauration afin de voir ce que l'on pouvait révéler en fait au final, hein, puisqu'on était dans un état de dégradation assez avancé. Donc, il y a eu beaucoup de suspense pendant de longues décennies autour de cette cheminée, de la salle dans laquelle se trouve cette cheminée. La salle dans laquelle se trouve cette cheminée, c'est en fait une parcelle d'un ancien hôtel particulier de la fin du XVIIe siècle. Vous savez qu'en fait, alors je vous donne quand même un indice, on se trouve à Mende. On est vraiment dans le cœur de ville et donc à la fin du XVIIe siècle, il y avait de nombreux hôtels particuliers qui existaient. Certains peuvent encore être découverts, visitables. Et d'autres ont disparu. Et ici, on est dans une parcelle donc qui a été préservée. Et donc, cette cheminée a une particularité. Donc, c'est qu'elle a ce décor d'après Simon Voué, dont on parlait pour le château du Boy. Donc, Simon Voué était le peintre du roi au XVIIe siècle. Et ici, on se situe en fait dans un cabinet, une petite partie d'un ancien hôtel particulier, qui était vraiment une partie privée. Donc, le moyen de chauffage servait à chauffer les personnes qui y habitaient. Hein. C'était pas un lieu de réception du tout. En revanche, les motifs décoratifs, je laisse durer le suspense, hein, j'y viens. Les motifs décoratifs de cette pièce ont été exécutés certainement à l'occasion d'un mariage à la toute fin du XVIIe siècle. Et le répertoire décoratif d'après Simon Voué donc s'illustre au-dessus de la cheminée et dans toute la salle. Donc au-dessus de la cheminée, au niveau du manteau de cheminée. On a notamment un grand médaillon qui renferme un paysage. Et au-dessus, les armoiries de la famille de Moret. Donc souvent, on indiquait les armoiries de la famille pour marquer justement cette création, cette exécution d'un décor sur commande de la famille. Et puis c'est toute une salle en fait qui enferme un décor, une fois encore d'après Simon Voué. Alors à l'époque, il faut rappeler, comme pour le château du Boy, qu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, c'était la gravure qui faisait circuler les motifs peints. Donc Simon Voué donc, avait réalisé des motifs peints notamment par rapport au registre dont on parle, pour la chambre d'Anne d'Autriche, au château de Saint-Germain-en-Laye. Motif peint qui a donc pu être diffusé dans l'Europe entière grâce au répertoire de la gravure. Donc le répertoire gravé, on est là chez Michel Dorigny, un graveur français, dans les années 1640, donc qui a diffusé tout ce registre peint. Et donc j'en reviens en fait à ce lien avec le château du Boy, c'est que le château du Boy, tout comme le château de Saint-Germain-en-Laye, présentait des motifs peints sur un plafond en caisson de bois en fait, alors que là, la pièce dont je vous parle, on est sur une voûte vraiment en berceau, et donc là on est sur de la peinture murale, un registre différent, un support différent, mais on est sur ce répertoire des allégories, des vertus. Je vous ai parlé de ce qu'il y avait sur le manteau de cheminée. En fait, ce qu'il y a autour, ce sont des vertus d'après Simon Voué. Donc, nous avons la justice, la force, la tempérance, la prudence. Et au centre, certainement, les vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance. Donc, tout un registre d'allégories C'était vraiment un motif assez typique, vraiment largement diffusé dans le domaine architectural au XVIIe siècle, dans la France entière en fait, dans de nombreux hôtels particuliers. Et le petit bonus, et voilà, c'est la chute qui tue, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez accéder à cette petite parcelle d'hôtel particulier préservée, restaurée. On a eu 6 mois de travaux de restauration dans le cadre du chantier du musée du Gévaudan. Évidemment, vous doutez bien qu'il y avait bien un lien peut-être avec le musée ou pas, ou du moins le patrimoine de la ville de Mende. Et donc, en fait, cette salle est visitable puisqu'elle a été regroupée dans ce travail, cette programmation architecturale dans le cadre du projet musée du Gévaudan. Et donc, vous pouvez la découvrir au fil du parcours. Donc, elle est inscrite, reliée au premier étage du musée du Gévaudan, alors qu'à l'époque, ça ne communiquait absolument pas.
La cheminée n'est plus apparente. Donc là, on est sur
elle est vraiment apparente. Elle est vraiment en ressaut. C'est une cheminée en pierre avec son décor. Alors évidemment, elle n'a plus la fonctionnalité, hein, puisque nous avons des œuvres qui cohabitent désormais, et qu'on a d'autres moyens de chauffage ou de climatisation du bâtiment pour la conservation des œuvres, mais elle est toujours vraiment visible en tant que telle.
Merci beaucoup, Nadia.
Merci à vous. Je suis désolée, j'ai fait un peu un long monologue, mais il y avait.
Mais c'est très bien. On n'avait rien à dire. Il faut savoir se taire, Nelly Lafont.
Mais tout à fait. Surtout quand on n'a rien à dire. Mais par contre, je te propose de finir notre visite par l'actualité.
Bien sûr, l'actualité.
Voilà, la première
sur des cheminées.
Oui, parce qu'on a des choses à dire sur les cheminées.
C'est très bien, mais vous me surprenez toujours et j'attends ce moment de l'émission avec impatience à chaque fois.
Pensez à ramener vos cheminées pour que le Père Noël ne salisse pas sa tenue.
Déjà. Et le salon, qui salisse pas le salon aussi.
En deuxième actualité, on est sur les cheminées, mais on est aussi sur tous nos chroniqueurs qui ont participé cette année à nos visites radiophoniques. Donc en actualité, félicitations à Nadia Rabaz, qui a reçu le prix Degas par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère.
Donc, bravo Nadia. Nadia.
Je tiens à dire qu'il s'agit d'un prix partagé. S'il y a un prix remis, c'est pour une œuvre collective. Donc je partage ce prix et je profite de ce moment partagé avec les auditeurs pour dire que c'est un prix partagé avec tous les collaborateurs, les partenaires très nombreux, le Pays d'Art d'Histoire, toi-même Nelly, ici présente.
Merci.
Ainsi que vraiment tous les services de la ville, les équipes qui ont œuvré au projet musée, sans qui le musée ne serait pas.
Voilà, peut-être pour clarifier les choses, peut-être que les auditeurs connaissent pas le prix Degas, mais c'est un prix qui est décerné annuellement par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Lozère et qui vient honorer une personne qui a œuvré pour la culture et le patrimoine, pour l'histoire du département. Voilà, donc Nadia va recevoir ce prix parce que tu l'as pas encore officiellement.
Physiquement non,
mais physiquement non, voilà.
Moralement oui.
Pour tout le travail qu'elle a mené pour le musée du Gévaudan. Ça c'est une des premières actualités. Ensuite, c'est Noël, Caro. Il ne faut pas oublier
d'accrocher
ses chaussettes à la cheminée parce que le Père Noël va passer. Et du coup, on peut passer aux anecdotes.
Oui, Ludo, on sait que c'est la chronique la plus attendue de nos émissions. C'est un peu notre spécialité, j'ai envie de dire.
C'est vrai.
La petite pépite, n'est-ce pas ?
On l'a inventée.
Voilà, nous l'avons inventée. Et du coup, nous te proposons une battle d'anecdotes.
Ouais. Donc peut-être qu'on peut commencer par la tienne, Caro ?
Ah bah bien sûr, avec grand plaisir. On est toujours sur le même niveau d'anecdotes pour briller en société. Est-ce que tu sais, Ludo, pourquoi justement on met des chaussettes sur la cheminée ?
Est-ce que j'ai le droit d'appeler un ami présent ici dans cette salle ?
Tu n'as pas le droit d'appeler Vincent.
Je n'ai pas le droit d'appeler Vincent. Ok. Je vais appeler Alexandre parce qu'il est en face de moi. Alexandre ne sait pas non plus. Je savais que je devais appeler Nadia ou Lucie. Je le savais.
Moi j'en ai, mais il paraît qu'il faut pas les dire.
Alors j'appelle Lucie comme invitée. Alors, elle ne sait pas. Alors pourquoi ?
C'est lié à l'histoire de Saint Nicolas. Et donc Saint Nicolas sauva ainsi 3 jeunes filles pauvres et sans dot de certainement la prostitution. Faute de mariage. Donc il jeta des pièces d'or à la fenêtre de la maison qui tombèrent comme par hasard sur des chaussettes en train de sécher au coin du feu.
Eh bien merci pour tous nos auditeurs laïcs de 48FM qui ne savent pas du tout cette anecdote-là et je ne connaissais pas.
Ça sert toujours à ça.
On en a qu'une anecdote ?
On t'a dit que c'était une battle, donc en fait chacun de nos chroniqueurs,
Une anecdote ! Ah, une anecdote. J'ai x5 là, x6.
Alors Vincent.
Donc, La cheminée de Montmirat, savez-vous en quoi elle est célèbre au niveau médiatique? Ludo, le sais-tu?
Je ne sais toujours pas, je vais donc appeler une nouvelle amie qui sera Nelly.
Non, non, mais moi je sais.
Eh ben alors, mais réponds. Alors si tu sais.
Non, mais je laisse Vincent nous le dire en fait.
Eh bien, elle est apparue comme illustration des jingles qui lançaient les publicités sur France 3 au début des années 2000. Et pour l'anecdote, dans l'anecdote, j'ai passé 25 minutes ce matin à regarder une chaîne YouTube qui recense tous les jingles télé. C'est véridique, tous les jingles télé de France 3 de 1983 à 2022 pour trouver l'année exacte à laquelle a été diffusé ce jingle de Montmirat.
Ouais, mais on doute pas de ton sérieux et de tes précisions, Vincent. Merci beaucoup, encore une anecdote précise. Allez, Alexandre, je vais arrêter de te demander en ami, hein, Lucie, là, si tu réponds à aucune question, hein, sache-le. Hein.
Alors, c'est très simple, liste. Du coup, j'ai presque honte. Moi, j'ai pas passé 25 minutes à chercher. J'ai juste eu à lire le premier article que j'ai trouvé. Saviez-vous que l'usine de cogénération de Mende, quand elle est créée, c'était la plus puissante d'Europe? Et c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc,
En
2010, quand on a lancé l'usine à plein régime, c'était la plus puissante d'Europe à ce moment-là. Alors depuis, elle a été dépassée, mais voilà, quand même, à Mende.
Bravo Alexandre, merci pour cette anecdote. Nadia.
La question qui tue, sais-tu combien il y avait de cheminées sur le périmètre du musée du Gévaudan actuel?
Ouf, je vais pas demander d'avis du public ou d'amis, je vais dire 6.
Oh, bien plus, tu peux doubler, voire peut-être tripler.
Aïe,
puisque le site du musée du Gévaudan comprend à la fois le site historique qui lui-même avait une cheminée assez exceptionnelle et assez impressionnante, qui est la cheminée de l'ancienne usine électrique, qui vraiment dépassait de cette cour. Alors vous avez peut-être vu dépasser de la cour ces dernières années une grue, du moins sur les deux premières années des travaux, la première année surtout. Il y a eu une grande cheminée pour l'usine électrique, et puis c'est un site qui réunit plusieurs maisons particulières, plusieurs parcelles, dont l'hôtel particulier dont on a parlé tout à l'heure, la salle des vertus. Donc en fait, au final, on a facilement une quinzaine de cheminées qui composaient ce site musée du Gévaudan, donc le site qui chauffe.
Merci Nadia. Allez, on poursuit. Lucille, l'anecdote qui tue, ou d'actualité.
Alors on revient en Pennsylvanie, hein, qui n'est pas pareil que la Transylvanie, attention. Sais-tu comment s'appelle la rivière sur laquelle est placée cette maison?
Je ne peux pas te dire.
Et oui, c'est assez complexe. Elle s'appelle Bear Runs, donc c'est l'ours qui court. C'est-à-dire que c'est vraiment le bruit que fait la cascade, je pense, qui donne ce nom à cette rivière. Voilà, c'était l'anecdote qui tue. Voilà.
Merci Lucille pour ces anecdotes. On va poursuivre, on va donner à Béné l'anecdote, parce qu'on va terminer avec Nelly quand même. Béné, ton anecdote pour cette émission de fin d'année.
Anecdote qui tue, c'est le cas de le dire, mais je veux faire un petit quiz avec toi.
Ah, vas-y, je suis partant. Toujours pour les quiz.
Si je te dis pelle à feu.
Je dis château du Boy, meurtre d'un des propriétaires.
Exactement. Jean-François Charles Molette de Morangiès aurait été tué d'un coup de pelle à feu par une de ses prétendantes.
C'est beau. Est-ce que Nelly va nous faire mieux?
Alors, je ferai pas mieux. Je vais quand même ouvrir un petit peu nos horizons. Est-ce que vous savez, chacun peut donner sa hauteur, si vous voulez, combien mesure la cheminée la plus haute du monde, selon vous?
Allez, on va faire un tour de plateau.
Attention,
Vincent, on commence, on va
alors,
faire
d'un. Alors, c'est une cheminée...
Est-ce qu'on a le droit de dire où elle est?
D'une centrale thermique.
Ce n'est pas une cheminée personnelle.
Voilà.
Pas du tout. Non, mais déjà, c'est...
Voilà. Allez, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre Béné.
Le plus proche gagne le jambon.
Le juste prix, 800 mètres.
Vincent.
398 mètres.
Alexandre.
272.
Caro.
542.
Nadia.
469.
Lucille.
123.
Ok, moi je suis carreau parce que c'est l'archi de la bande. Je vais dire 598. Oui, mais carreau, elle fait les émissions avec moi. 598.
Eh bien, il fallait suivre celui avec lequel il faut se mettre pour jouer au Trivial Poursuit.
Oh, on savait que c'était Vincent. On le sait que c'est Vincent.
Et donc, la plus haute cheminée du monde culmine à 419,7 mètres. Voilà, c'est donc la cheminée de la centrale thermique d'Ekibastutz 2, située au Kazakhstan.
Bravo, bravo Vincent.
Allez, j'en ai pour Vincent.
Bon, alors Vincent, comme tu as gagné, tu vas avoir le droit de participer à la visite radiophonique de janvier. Du coup, je vais pouvoir demander à nos chères animatrices en chef, vous m'amenez où le mois prochain?
Ben cette fois-ci, on a parlé du feu. Le mois prochain, on parlera de l'eau.
Oui.
Ah merde, on en a vu 5 déjà.
4 5
C'est la cinquième. C'est la cinquième bouteille de champagne. Vous comprenez pourquoi cette émission est un peu compliquée.
On a de la bière, j'avais appris dans la réserve.